lire un passage bien connu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, où nous allons découvrir ces trois fondements que Dieu veut donner dans nos vies, dans nos familles, afin que nos familles restent fermes et bien fondées sur la parole de Dieu. Lisons dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 21. Verset 20 déjà. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Mais jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Que Dieu bénisse sa parole. Ce passage-là nous révèle trois points importants qui sont les trois fondements d'un foyer solide et heureux. Le premier fondement, nous le trouvons au verset 20-21, quand il est dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Bien souvent, nous, lorsque nous parlons de la famille, nous oublions ce verset et nous allons directement au suivant. Et que dit le suivant ? Femme, soyez soumise à vos maris. Ça, c'est le verset que les hommes aiment beaucoup. S'il y a un verset qu'ils aiment dans la Bible, c'est bien celui-là. Oh, s'ils l'aiment, ce verset. Oh, ils l'aiment, ils l'aiment. Mais avez-vous remarqué qu'il y a quelque chose, chère Marie, puisque vous aimez bien ce verset ? Il y en a un autre aussi que vous devez aimer. Avant de dire « Femmes, soyez soumises à vos maris », la parole de Dieu nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Ce n'est pas seulement la femme qui doit être soumise, mais le mari aussi doit apprendre à être soumis. Les maris ont de la peine à dire « Alléluia ». Comment ? Moi, j'ai toujours compris que c'est la femme qui doit être soumise. Oui, c'est vrai. Mais il est dit aussi que nous devons nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et cela commence dans le foyer. Et le premier fondement est celui-ci, en partant de ce verset. Quelle est d'après vous la qualité d'un homme ou d'une femme qui se soumettent les uns aux autres? D'après vous, quelle est cette qualité? Vous savez, pour faire cela, il faut être mûr spirituellement. Et en cela, je viens de vous donner maintenant la première qualité ou le premier fondement d'un foyer heureux. C'est un esprit de maturité spirituelle. La maturité. Le mariage est pour des adultes et non pour des gamins. Le mariage est pour des adultes, pour ceux qui ont un esprit d'adulte. Aujourd'hui, nous voyons des enfants qui s'amusent, qui se marient, qui divorcent. Ils considèrent le mariage comme un jouet. Et parce qu'ils ne sont pas mûrs spirituellement, quand la difficulté arrive, quand l'épreuve arrive, car il y en a dans une famille des difficultés, alors comme c'est des gamins, vous savez ce que fait un gamin ? Oh, quand ça devient trop difficile, il commence à vous dire, oh, excuse-moi, je vois que ça devient un peu trop difficile. Et comme je l'ai dit ce matin, il me semble qu'on commence à avoir des problèmes d'incompatibilité. J'ai l'impression qu'on ne s'entend plus tous les deux. Et il faut que j'aille ailleurs. Et un esprit gamin, c'est cela. Il se révèle lorsque les difficultés arrivent. Il ne peut supporter les difficultés. C'est donc quelqu'un qui n'est pas prêt à prendre des responsabilités. Voilà un gamin. Voilà un enfant. Il veut des privilèges, mais il ne veut pas de responsabilités. Ah, il veut les joies du mariage. Il y en a, bien sûr, mais dans un mariage, il n'y a pas que des joies, il n'y a pas que des privilèges, il y a aussi des responsabilités. Un enfant qui se marie, qui a un esprit d'enfant, ne pense qu'aux privilèges. Tandis qu'un homme mûr, une femme adulte, pense d'abord aux responsabilités dans le foyer. Voilà donc le premier fondement, c'est un esprit de maturité spirituelle. Et quel est le contraire de la maturité ? C'est un esprit égoïste. Et laissez-moi dire et redire que le premier obstacle dans la vie conjugale, le premier obstacle, le premier problème est celui-ci. C'est notre égoïsme, l'égoïsme du conjoint, du mari ou de la femme, son esprit d'indépendance. Ça, c'est le plus grand obstacle qui se trouve sur le chemin d'un couple. C'est pourquoi il faut absolument régler ce problème de l'égoïsme et de l'immaturité spirituelle. Avez-vous remarqué combien de gens... Et moi, j'ai l'impression que je me suis un peu marié. Je ne me suis pas toujours marié dans un bon esprit. Et j'ai révélé par là que j'étais aussi un petit gamin. Je me suis marié, moi, pourquoi, finalement ? Je crois que c'était parce que je voulais être aimé. Voyez-vous ? Je voulais souligner bien ce « je ». C'est très important, voyez-vous ? C'est un gamin qui se marie. Je voulais être aimé. Ou alors, d'autres disent... Moi, je me suis marié parce que à la maison, c'est des matchs de boxe du matin au soir. Parfois, c'est le papa qui met la maman KO. Parfois, c'est la maman qui met le papa KO. Alors, vous pensez bien, je me marie parce que ça ne va pas à la maison. Et combien se sont mariés comme cela ? Parce que ça ne va pas à la maison. Et d'autres disent, oh là là, tous les jeunes de mon âge se marient. Je ne vais quand même pas rester célibataire toute ma vie. Alors à cause des autres, on se dit, oh mais quand même, il faut que tu te maries. Alors, tu deviens vieux garçon, tu deviens vieille fille. Allez, il faut que tu te maries. Mais avez-vous remarqué une chose ? Dans toutes ces situations, c'est le côté immaturité, le côté égoïste qui intervient. On se marie pour recevoir quelque chose du conjoint. Mais, oui, oh, bien sûr, on donnera de temps en temps un petit compte-gouttes de bénédiction à notre mari, à notre femme. Mais essentiellement, nous nous marions pour recevoir. Dites, n'est-ce pas cela, franchement ? Il faut le reconnaître. En tout cas, je vous le dis, je vous assure franchement. Bon, oui, je pensais faire plaisir à ma femme, mais ça, c'était, disons, 10% du mariage. Vous dites, oh là là, vous n'étiez pas très spirituel à vos mariages. Ben oui, j'étais aussi, il y avait un peu du gamin en moi. Et c'est pourquoi il y a eu pas mal de frictions. Il y en a de moins en moins. Il y en a encore parfois. Oh, vous dites-vous comment ça? Oh, vous avez des problèmes, vous? Ah, il y en a parfois. Mais le problème n'est pas qu'il y ait des problèmes. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à résoudre nos problèmes. C'est là le problème. Et avec ma femme, nous essayons de les résoudre. Et je vous assure maintenant, je ne peux plus tenir. Quand il y a un problème, il faut le résoudre. Un gamin, lui, quand il y a un problème, il fuit le problème. Ou il met la faute sur son époux ou sur son épouse. Voilà un gamin, c'est ça un gamin. Il ne veut pas de responsabilité. Avez-vous remarqué? C'est ta faute. C'est ta faute quand quelque chose ne va pas. Combien de fois vous l'avez dit? Combien de fois je l'ai dit? C'est ta faute. C'est ta faute! Ah oui, t'as l'air de parler bien fort. Comme je fais, je parle un peu fort aussi maintenant. Tu parles bien fort. Ah bon, si tu parles un peu fort, c'est que c'est le petit gamin en toi qui crie un peu fort. Parce qu'il n'a pas toujours ce qu'il veut. Et les choses ne vont pas comme il veut. Voilà pourquoi il y a tant de problèmes. Parce que le fondement numéro un, le premier fondement dans un foyer n'est pas établi. Et le premier fondement est cet esprit de maturité. Et vous savez, ça ne se fait pas toujours du jour au lendemain. Pendant 20 ans ou 25 ans, certains 30 ans, d'autres 40 ans ont vécu d'une manière indépendante. Et alors après, quand il faut faire plaisir à l'époux ou à l'épouse, je vous assure que ça va pas, c'est pas facile. Quand pendant des années, on a vécu uniquement pour recevoir et non pour donner. C'est là le problème avec beaucoup. Mais si nous voulons un foyer stable, il faut passer de cet état d'enfance spirituelle à l'état d'adulte. Il nous faut avoir cette maturité spirituelle. J'ai relevé trois pensées ici, très importantes, qui sont les trois conséquences de l'égoïsme. Quand on vit d'une manière indépendante, il y a toujours trois conséquences. Trois fruits amers, si vous voulez, qui ne résoudront jamais nos problèmes, au contraire, qui les aggravent. J'ai remarqué ici, si nous vivons d'une manière égoïste, qu'est-ce qui se passe? L'égoïste ou l'indépendant est quelqu'un qui ne sera jamais satisfait malgré tout ce qu'il peut recevoir. Voilà pourquoi ça n'ira jamais. Quelqu'un qui ne vit que pour lui, avez-vous remarqué, il ne sera jamais satisfait. Vous ne pouvez jamais satisfaire quelqu'un d'égoïste. Ah, il est satisfait 5 minutes. D'autres, c'est 5 secondes. Ah, sur le moment, merci, ah, formidable. Oh, plus rien du tout après. Un égoïste, écoutez-moi bien, ceci est très important, un égoïste ne sera jamais satisfait. Malgré tout ce que vous pouvez lui donner, voyez-vous. Donc, même si votre mari, si votre femme fait tout ce qu'il faut pour vous plaire, mais si vous, vous vivez uniquement pour recevoir, vous ne serez jamais satisfait. Et voilà pourquoi certains couples sont insatisfaits. Voilà pourquoi tu es peut-être insatisfait ou insatisfaite, malgré tout ce que tu peux recevoir. Parce que si tu vis de cette façon-là, si tu ne vis que pour recevoir, tu seras toujours insatisfait. Deuxièmement, si nous vivons pour recevoir, nous serons esclaves des autres. Quelqu'un qui ne vit que pour recevoir des autres, il sera esclave des autres. Avez-vous pensé à cela? Quelqu'un qui vit uniquement à ce niveau-là, il est toujours là en train d'attendre quelque chose des autres. Quand on lui donne quelque chose, ça va, mais quand il ne reçoit plus rien, ça ne va pas. Il est esclave de la bonne humeur ou de la mauvaise humeur des autres. Il est finalement esclave. Et il y a combien d'esclaves dans les foyers? On s'attend littéralement au conjoint et finalement on devient esclave l'un de l'autre. Si donc nous vivons comme cela, ce n'est pas là le chemin de la liberté, mais c'est le chemin de l'esclavage. Et si vous êtes esclave des hommes, vous respecterez toujours. Voilà pourquoi Les époux se critiquent continuellement. Parce qu'on attend toujours quelque chose de l'autre. Et la critique est quelque chose de terrible dans un foyer. Ces pointes amères, ces paroles qui font mal, c'est quelque chose de terrible. Combien ces choses font du mal dans un foyer? Pourquoi? Parce que nous sommes esclaves l'un de l'autre, on ne vit que pour recevoir. C'est en somme deux sangsues qui se marient. Vous rendez compte, deux sangsues qui se marient, ce que ça peut faire? Une sangsue retire le sang de quelqu'un. Alors on est là littéralement en train de sucer l'autre. Et quand on a tout sucé, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien du tout. Oh, tout le monde s'écroule. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Voilà le motto de certains qui se sont mariés. Mais vous serez esclave si vous avez ce principe-là. Ce n'est pas donne-moi qu'il faut dire, c'est donne-toi, donne-toi, donne-toi. Et tu expérimenteras une véritable libération. Une troisième pensée maintenant qui se dégage de l'égoïsme, c'est celle-ci. Cet homme-là ne peut expérimenter une intervention divine. Tant que nous vivons à ce niveau-là, voyez-vous, Dieu, lui, ne vit que pour donner. Voyez-vous, donner, c'est répandre la bénédiction. Voyez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, Dieu donne. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est en donnant que le fleuve de l'Esprit Saint, que le fleuve de la bénédiction coule du sein de Dieu sur nous tous, n'est-ce pas vrai? Quand Dieu réfléchit, il ne dit pas « que puis-je recevoir ?» Toujours il dit « que puis-je donner ?» Que puis-je donner? Que puis-je donner? Voilà comment Jésus agissait. Voilà comment le Père agit. Voilà comment le Saint-Esprit agit. Mais si nous avons la réaction contraire, que puis-je recevoir? Alors à ce moment-là, on est à contre-courant de ce que Dieu fait. Vous comprenez? On est à contre-courant. Le Saint-Esprit veut se donner et nous voulons recevoir. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas expérimenter une intervention divine dans notre vie. Il faut se mettre au même diapason du Seigneur. Amen. Et le diapason du Seigneur, c'est comme un fleuve qui coule, une vie qui se donne, une vie qui ne pense plus à soi, qui détruit l'égoïsme. Mais vous allez dire, mais alors je ne vais plus rien recevoir. Est-ce que alors, j'ai quand même des besoins. Mais bien sûr, tu as des besoins, mais tu dois réaliser une chose, que l'homme n'est jamais la source de tes besoins. Dieu seul est la source. Amen. Les hommes sont parfois des instruments pour nous communiquer des bénédictions, mais Dieu seul en est la source. Alléluia. Et si nous voulons être mûrs spirituellement dans notre ménage, si nous voulons vivre non plus pour recevoir, mais pour donner, alors à ce moment-là, vous expérimentez la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en vous commence à couler et vous allez voir des choses extraordinaires. Alléluia! Des fleuves d'eau vive commenceront à couler de votre sein. Oui, on ne se marie pas pour être heureux. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Reprenez votre déclaration, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous venez de dire? On ne se marie pas pour être heureux, je le maintiens. Mais voyons, je ne comprends plus rien du tout, moi. On ne se marie pas pour être heureux, on se marie pour rendre l'autre heureux, le conjoint heureux. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire alléluia. Amen. Alléluia. Voilà une vérité fondamentale. Voilà un mariage adulte. Voilà l'esprit dans lequel quelqu'un doit se marier. Sinon, il sera insatisfait. Sinon, il sera esclave de son conjoint. Et sinon, il ne pourra pas expérimenter une intervention divine. Combien de couples prie et demande au Seigneur d'intervenir. Oh Seigneur, agis, tu vois mon mari, il a la tête dure parfois. Seigneur, tu vois ma femme, dis donc, je m'en sors pas avec elle. Seigneur, fais quelque chose. Mais voyez-vous, on prie comme cela pour recevoir quelque chose. Mais on n'est pas prêt à donner. Et comme on n'est pas prêt à donner, Dieu n'est pas prêt à donner non plus. Mais si nous sommes prêts à donner, Dieu suppléera à nos manquements et il nous en donnera beaucoup plus que ce que nous pouvons donner. C'est le moment de dire alléluia. Alléluia. Donnez, 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 donnez. Voilà Voilà l'homme adulte. Voilà la femme adulte. Ceci est important. C'est pourquoi il est dit, soumettez-vous les uns aux autres. Il n'y a qu'une personne mûre spirituellement qui peut faire cela, n'est-ce pas vrai? Ah, je vous assure. Comment pouvons-nous nous soumettre les uns aux autres? Dans la famille déjà, comment? Sans avoir cette maturité spirituelle de quelqu'un qui cesse de penser à lui-même, mais qui pense d'abord à l'autre. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à soi, mais on pense d'abord à l'autre. Les besoins de l'autre passent avant. Voyez, on est tellement égoïste qu'on ne pense qu'à nous. On ne pense qu'à soi. Et voilà pourquoi ça ne va pas. Voilà pourquoi combien de foyers se séparent, ou alors s'ils ne sont pas séparés, ils vivent comme des séparés. Voilà pourquoi combien de foyers divorcent, ou s'ils ne divorcent pas, ils vivent comme des divorcés. Dites-moi un petit peu. Vivre comme des divorcés, c'est quelque chose de terrible. Ah, on ne veut pas que les autres sachent que ça n'aille pas. Ça ne va pas. Mais à la maison, ça ne va pas du tout. On a une attitude qui ne glorifie pas Dieu et qui attriste son conjoint. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants. Nous sommes des bébés encore, des gamins. Donne-moi, 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 donne-moi. Il faut changer cela. Et comment changer? J'ai noté aussi trois pensées ici. Oui, j'ai pas mal de choses. Hein. Mon plat de viande, il est là. La recette est là. Il y en a encore ici. Il y en a partout, dans tous les coins. Trois façons de se libérer de cet égoïsme. Vous allez dire, mais comment m'en sortir? Comment? Écoutez-moi bien. Le premier point est celui-ci. L'égoïsme doit être considéré comme un péché qui déplaît premièrement à Dieu. Et tant que quelqu'un ne considère pas son égoïsme comme un péché, alors jamais il ne demandera à Dieu d'en être libéré. Avez-vous compris cela? Combien d'entre nous nous disons, oh, cet égoïsme, bon, c'est ma faiblesse. Je suis faible. Qu'est-ce que tu veux? Mon père était comme ça. Ma grand-mère était comme ça. C'est un peu dans la famille, tu sais. Combien nous aimons ces choses? C'est dans la famille. Le papa était comme ça, la maman était comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Voyez-vous, on se justifie. C'est une faiblesse. Une maladie. Oh, ben c'est une maladie, qu'est-ce que tu veux? Tout le monde a sa maladie. Moi, j'ai la mienne. Toi, t'as la tienne. En ayant une telle attitude, nous ne changeons jamais. Et voilà pourquoi les problèmes subsistent. Mais l'égoïsme est un péché. Car l'égoïsme est la signification même du péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est vivre pour soi au lieu de vivre pour Dieu. Dans Ésaïe 53, il est dit, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Avez-vous remarqué? Chacun suivait sa propre voie. Suivre sa propre voie, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire faire ce qu'on veut. Voilà le péché. Voilà la racine du péché. C'est faire ce qu'on veut. Et tant qu'on vit pour faire ce qu'on veut, alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu et qui nous sépare de notre conjoint. Avez-vous pensé à cela? Car le péché, écoutez-moi bien, c'est très important. Le péché est quelque chose qui nous sépare de Dieu. Ce sont vos péchés, nous dit la Bible, qui nous séparent de Dieu, nos transgressions qui nous séparent de Dieu. Et voilà pourquoi nous ne jouissons pas de la bénédiction de Dieu dans notre foyer. Mais le péché fait encore autre chose. Le péché nous sépare de notre prochain et de notre conjoint. Et si nous ne mettons pas le péché de côté, eh bien, il y aura une barrière. Nous aurons beau nous aimer, nous aurons beau faire ce que nous voulons, rien n'y fera. Premier pas vers la délivrance, réaliser que c'est un péché qui déshonore Dieu. Écoutez bien, soulignez bien cette pensée, un péché qui déshonore Dieu. Car tant que vous ne réalisez pas que ce que vous faites déshonore Dieu, jamais vous n'allez changer. Vous ne changerez pas. Vous dites, oh bon, mais ce que je fais peut-être du mal à ma femme, mais elle aussi m'en fait du mal. Voyez, alors on s'en sort comme ça. Oh, on est spécialiste pour ça, pour s'en sortir. Hein? Pour trouver les chemins de sortie, on est les premiers. Et nous devons réaliser que ce péché offense Dieu. Avez-vous remarqué dans le péché d'adultère de David? Avez-vous remarqué quelque chose de très important? Il a dit, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Psaume, vous voulez la référence? C'est psaume 51, je crois, sauf erreur. Psaume 51. Oui, psaume 51, verset 6, verset 5 déjà. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Dites-moi, contre qui avait-il péché? Il avait péché contre cette femme. Il avait péché contre son mari. Mais d'où vient de ce qu'il dit? J'ai péché contre toi seul. Parce qu'il a compris quelque chose que beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons pas. Et parce qu'il a compris cela, David n'a plus jamais recommencé, n'est-ce pas vrai? Il a compris que son péché, avant d'offenser cette femme ou son mari, a premièrement offensé Dieu. Dieu a été profondément attristé par son péché. Et quand il a compris cela, il s'est dit, c'est pas possible. J'ai attristé Dieu, le Seigneur, par mon péché. Je ne peux désormais plus recommencer. Il faut que je change. Car j'ai attristé celui que j'aime le plus. Celui qui m'est le plus précieux. Je l'ai attristé. C'est pourquoi il faut que je change. Voilà l'attitude de David. Et il en est de même dans le ménage. Quand nous réalisons que par notre égoïsme, avant de faire du mal à notre conjoint, nous réalisons que nous faisons du mal au Seigneur, les choses changeront. Vous ne croyez pas? Voilà pourquoi il y en a qui se décident toujours de ne rien décider. Avez-vous remarqué des gens comme ça? Ils décident de ne rien décider. Ils restent toujours les mêmes. Toujours en train de justifier leur péché. Et dire, oh, c'est pas si grave que ça. Le Seigneur est bon. On entend toutes sortes de choses. Dieu est amour. Dieu est amour. Alors on peut continuer comme cela. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est juste. Dieu est saint. C'est un amour qui est le péché. Et si nous voulons que Dieu nous délivre, il faut haïr le péché et dire, Seigneur, à partir de maintenant, je réalise que j'ai péché contre toi par mon égoïsme. Alors, je te demande humblement pardon. Je t'ai fait de la peine avant de faire de la peine à ma femme ou à mon mari. C'est à toi que j'ai fait de la peine. Seigneur, je suis attristé. Je veux changer. Pardonne-moi. Alors, il y a quelque chose qui va se passer à ce moment-là. Amen. Ça ira en profondeur. Et réellement, vous commencerez à changer. Le deuxième pas vers la délivrance, une fois que nous avons réalisé cela, il faut décider de changer sa façon de vivre. Il y a des décisions à prendre. Comme je l'ai dit, il y en a qui décident de ne rien décider. Ils disent, oh bon, voilà, bon, moi j'espère que ça changera. Ou alors, ils attendent que le mari ou la femme se décide. C'est toujours la même chose. J'espère qu'après un séminaire sur la famille, il va prendre des décisions. Et d'ailleurs, je vais bien le lui rappeler à la maison. Si je ne peux pas le lui dire, vous savez comment on le lui dit, quand on ne peut pas le lui dire directement, c'est dans la prière. Vous savez, les super spirituels, c'est comme ça. Ils n'osent pas le dire au mari ou à la femme, mais dans la prière, oh Seigneur, tu vois mon mari, ma femme est faible, elle n'a pas encore pris cette décision. Elle n'a pas pris encore la décision de changer. Il est toujours le même. Mais oui, jusque dans la prière. Quelle folie, quel égoïsme, quelle hypocrisie. Non, nous devons décider de changer personnellement. Amen. Et vous savez que vous n'avancez pas moi-même, je dois prendre des décisions. Et vous savez, il ne faut pas vous décourager si vous dites, mais bon, d'accord, bon, mais j'ai déjà pris des décisions et puis il n'y a rien qui s'est passé. Eh bien, vous devez reprendre encore une décision. Notre volonté est tellement affaiblie par nos sentiments que nous sommes trop sentimentaux. Et si nous vivons de sentiments, comme je le dis souvent, le sentiment toujours. On ne peut pas vivre de sentiments. À un moment donné, il faut se décider. Et dire, Seigneur, à moi le vouloir, mais à toi le pouvoir. Dieu ne forcera jamais votre volonté, avez-vous pensé à cela? Si vous ne prenez pas de décision, Dieu ne prendra pas de décision à votre place. Vous devez prendre des décisions et dire, à partir de maintenant, je ne veux plus vivre comme un enfant, égoïste, indépendant, pleurnichard, rouspéteur, grincheur. Je décide de vivre non plus pour recevoir de mon mari ou de ma femme, mais je décide de vivre pour donner. Alléluia! Je sais que ça vous coûte de dire ça, et c'est pourquoi certains ne veulent pas le faire. Mais c'est à ce prix-là que vous serez bénis. C'est à ce prix-là que votre foyer sera délivré. C'est à ce prix-là que Dieu interviendra. Amen? Ceci est très important. Très important. Voyons La troisième chose maintenant, le troisième pas est celui-ci, vers la délivrance. Nous devons trouver notre joie plus à donner qu'à recevoir. Après la décision, il faut dire, Seigneur, maintenant, je veux trouver ma joie. Parce qu'on peut prendre la décision en grinchant un petit peu et ça ne fait rien. Seigneur, on peut prendre des décisions sans que les sentiments y soient. D'ailleurs, dans ce domaine-là, si vous attendez les bons sentiments, vous ne prendrez jamais de décision. Vous êtes d'accord? C'est ça. Dans ce domaine-là, n'attendez surtout pas les bons sentiments, vous ne les aurez jamais. Mais le miracle est celui-ci. C'est que lorsqu'on prend une décision, alors petit à petit, les sentiments commencent à changer. Parce que si vous voulez influencer vos sentiments, vous devez prendre des décisions. Il n'y a que la volonté qui influence les sentiments. Vous devez prendre des décisions. Et lorsque la décision est prise, vous allez voir petit à petit, la décision dit « Alléluia » et au bout de quelques temps, les sentiments vont dire « Amen ». Même si au départ, la décision dit, la volonté dit « Je veux aimer », les sentiments diront « Oh, tu es un hypocrite, ne me laisse pas mourir, c'est moi qui ai besoin d'être aimé, je veux donner, non, je veux recevoir, ne me laisse pas mourir, oh là là, il va crier au secours ». Les sentiments, c'est ça. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais voyons, tu ne m'aimes plus, je ne sais pas, tu ne m'aimes plus. Ouais, les sentiments, c'est terrible, hein? Vous savez combien de personnes sont esclaves de leurs sentiments? Ils confondent amour et sentiment. Non, mais si nous prenons des décisions, petit à petit, les sentiments se mettront au pas. Et si au début, ils rouspètent un petit peu, si au début, ils disent mais petit à petit, vous allez voir, les sentiments vont commencer à changer. Et à un moment donné, les sentiments vont commencer à bien se sentir. Et quand la volonté dit « Alléluia », les sentiments diront « Amen, Alléluia ». Alors là, c'est l'harmonie intérieure. Et vous êtes réellement un homme et une femme mûre. Amen. Voilà. Ça, c'est le premier fondement. Voyons maintenant le deuxième fondement dans un foyer stable et heureux. Ah, ça c'est un mot qui fait peur aux femmes. Vous avez deviné quel est ce mot? La soumission. Un esprit de soumission. Et écoutez bien, je vais donner quelques petites précisions qui vont faire plaisir aux dames.
Et qui ne feront pas plaisir aux maris.
Ça ne fait rien. Deuxième fondement. Un esprit de soumission. La Bible dit bien, femmes, soyez soumises à vos maris. À vos maris, comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Non, ce n'est pas une soumission, n'importe quelle soumission. C'est comme au Seigneur. Comment est-ce que quelqu'un se soumet au Seigneur? Comment? Il est important de le savoir. Écoutez-moi bien maintenant, dans une société, dans une organisation, dans une société, quand il y a deux têtes qui commandent, est-ce que ça va marcher? Ça ne marchera jamais. Donc dans un foyer, pour qu'il y ait de l'ordre, la paix et la bénédiction, il faut qu'il y ait une seule tête. Ce que la Bible dit, le mari est le chef de la femme, il est la tête, il est donc le responsable. Et dans tout foyer, il faut qu'il y ait une tête, un chef. Mais non pas à la manière des hommes, mais comme Dieu le veut. Mais s'il y a deux têtes, deux personnes qui prennent les décisions, vous remarquez, et vous le savez vous-même, ce sera le fiasco tôt ou tard. Mais maintenant, voyons cette pensée. Qui a été très souvent galvaudé. Que signifie être soumis? Je voudrais d'abord vous dire ce que la soumission ne veut pas dire. Premièrement, la soumission ne veut pas dire être inférieur à sa femme. Parce que dans ce monde, on pense que c'est être soumise à son mari, c'est être inférieur à sa femme. C'est ce que les gens du monde pensent et c'est ce que certains chrétiens même pensent. Voilà pourquoi dans ce monde, on se rebelle contre cette pensée de soumission, n'est-ce pas vrai? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous venez du Moyen-Âge, vous? D'où vous sortez? Femmes, soyez soumises à vos maris? Mais évidemment,
On est en train de vivre l'année de la libération de la femme? Et tu veux que je sois soumis? Mais voyons, voyons, voyons. Je ne suis pas inférieur à mon mari. Voilà ce que certains pensent, ce que signifie être soumis. La soumission n'est pas être inférieur. La soumission, c'est être égal à Dieu, mais avoir des responsabilités différentes. Avez-vous bien compris cela? Être soumise n'est pas être inférieur. C'est une question de responsabilités différentes. Pour la paix et l'harmonie dans le foyer, Dieu a donné des responsabilités qui se complètent. Mais ce n'est jamais comme nous pensons, si je dois me soumettre, c'est parce que je suis inférieur à mon mari. C'est une erreur, ce n'est pas vrai. Et le mari doit jamais penser cela, et la femme ne doit jamais avoir une telle pensée. Sinon, l'harmonie, l'équilibre dans le foyer est impossible. Donc, être soumise ne veut pas dire être inférieur, pas du tout. C'est être égal, égaux, mais avoir des responsabilités différentes. Le mari est le chef, la femme, en somme si vous voulez, le mari est le président et la femme est la vice-présidente. Ou si vous voulez, le mari c'est le directeur et la femme c'est la sous-directrice. Voilà comment Dieu voit les choses. Donc ce n'est pas être inférieur. Les deux sont égaux. Les deux sont égaux. N'avez-vous pas lu dans la Bible, dans Galates, il est dit qu'il n'y a plus homme, ni femme, ni juif, ni grec en Christ. Cela veut dire que devant Dieu, une femme n'est pas inférieure à son mari. Ou un homme n'est pas supérieur à sa femme. Bien souvent, le mari le fait sentir et voilà pourquoi ça ne va pas. Toi, tais-toi. Tais-toi. Rien à dire. Comme pour dire, attention, moi je suis le chef, donc je suis supérieur. Non, ce n'est pas ainsi. Deuxièmement, la soumission n'est pas être esclave de son mari. Quand il dit soumettez-vous, cela ne veut pas dire bon, maman, je suis ton esclave. Autrement dit, je n'ai plus rien à faire, je ne peux plus rien faire. Me voici, fais ce que tu veux de moi. Non. Lorsque vous vous soumettez, Dieu ne fait pas de vous une esclave. Dans la pensée de Dieu, lorsqu'une femme se soumet, elle devient réellement libre. Car si c'est ce que Dieu veut de vous, alors vous serez réellement libre. Car Dieu donne des rôles, non pas pour rendre l'homme et la femme esclaves, mais pour les rendre libres. Autrement dit, dans la pensée de Dieu, lorsque tu te soumets, tu deviens libre. Et lorsque tu ne te soumets pas, tu deviens esclave. Esclave de toi-même. Troisième pensée, et celle-ci est très importante, la soumission n'est pas la soumission au péché. Avez-vous bien noté cela? La soumission n'est pas la soumission au péché. Combien de maris disent, écoute, la Bible dit que tu dois te soumettre. Et si j'ai envie de me saouler, tu dois te saouler avec moi. La Bible dit que tu dois te soumettre. La Bible dit que tu dois te soumettre. Alors, je t'interdis de lire la Bible. Je t'interdis d'aller à l'église. Je t'interdis de parler du Seigneur à quelqu'un. Je t'interdis ces choses. Ah oui? Dans de telles conditions, la femme n'est pas tenue à être soumise. Il y a la soumission comme au Seigneur. Ce n'est jamais une soumission au péché. Si le mari vous pousse à pécher, à vous conduit dans le péché, alors ce n'est plus de la soumission. C'est de la collaboration avec le péché. C'est le compromis, ce n'est pas de la soumission. Donc, écoutez bien, soumettez-vous comme au Seigneur. Dites-moi, quand on se soumet au Seigneur, est-ce qu'il nous fait pécher le Seigneur? Loin de ça. C'est justement le contraire. Quand on se soumet au Seigneur, plus on est soumis au Seigneur, plus on est délivré de l'emprise du péché. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux cela? Voyez-vous? Et quand une femme se soumet à son mari, c'est dans cet esprit-là. Ce n'est jamais pour que le mari exige à cette femme de faire des choses qui sont contraires à la Bible. La femme a le droit de résister et à dire à ce moment-là, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Parce que à ce moment-là, vous savez, c'est très facile. Le mari peut dire, bon, à partir de maintenant, tu abandonnes le Seigneur. Il lui dit, tu dois être soumis, tu dois être soumise. Vous vous rendez compte, ça va loin. Tu abandonnes le Seigneur maintenant. Alors certains vont même jusqu'à dire, ah bon, puisque je dois être soumise à mon mari, alors j'abandonne tout. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? À un moment donné, lorsque cette soumission va à l'encontre de la parole de Dieu et vous fait pécher, Ce n'est plus de la soumission, c'est un compromis. C'est une collaboration avec le péché. Et Dieu ne vous demande jamais cela. Au contraire, la soumission, loin de nous rendre esclaves du péché, nous libère du péché. Alléluia. Gloire au Seigneur. Une autre pensée importante. Être soumise n'est pas être silencieuse. Avez-vous pensé à cela aussi? Combien disent, ah oui, bon, ben, autrement dit, oui, je dois être soumise. Je dois me taire. Je n'ai rien à dire. Et le mari aussi, tais-toi. Ah, combien de fois on l'a dit, celui-là, cette parole? Tais-toi. Autrement dit, être soumise, cela veut dire, tu dois te taire, tu n'as rien à dire. Mais être soumise ne veut pas dire cela. Selon la parole de Dieu, une femme qui est soumise, c'est justement quelqu'un qui, loin de se taire, est dans le plan de Dieu, quelqu'un qui vient aider son mari. Voici, je lui ferai une aide semblable à lui. Et le mot aide veut dire un complément. Vous venez pour compléter votre mari. Et il a besoin de vous, un mari est incomplet sans sa femme. Vous êtes là pour le compléter. Et vous devez parler si vous êtes silencieuse. Comment pouvez-vous compléter votre mari? Comment pouvez-vous aider votre mari si vous ne dites rien? Le Seigneur vous parle aussi. Le Seigneur parle à l'épouse. Le Seigneur a donné des dons à l'épouse. Et le mari doit avoir l'humilité d'accepter aussi ce que sa femme lui dit. Bien sûr, lorsque c'est en accord avec la Bible, naturellement. Mais le mari doit avoir cette humilité-là. Parce qu'il sait qu'il n'est pas complet par lui-même et qu'il a besoin de sa femme pour être complété et pour être protégé aussi. Car dans le mot aide, il y a la pensée de complémentarité, mais il y a aussi la pensée de protection. Voilà pourquoi quand un mari n'écoute pas sa femme quand il le faut, eh bien, ce mari peut faire de graves erreurs. Ce mari peut être tourmenté. Ce mari peut faire des choses mauvaises. Parce qu'il n'obéit pas. Il dit, moi, le Seigneur, moi, j'attends, c'est le Seigneur qui doit me parler. Et regardez, ça, c'est super spirituel. Ça, c'est les super, ça. Moi, c'est le Seigneur. Toi, t'as rien à dire. Ah bon, mais pourquoi Dieu t'a donné une femme? Justement pour t'aider. La femme voit les choses d'une manière différente de l'homme. Et les deux se complètent. Le mari est plus raisonneur, tandis que la femme est plus sentimentale. Les deux se complètent. L'un voit la chose sous un angle, et l'autre voit la chose sous un autre angle. Et le mari ne peut pas tout voir. Mais la femme est là pour l'aider à voir la chose, à compléter sa vision. C'est pourquoi le mari doit être humble et dire, écoute chérie, oui, d'accord, mais oui, je suis toujours disponible pour t'entendre. Voilà quelque chose qui aidera beaucoup l'épouse. Car elle désire aider son mari. C'est cela, c'est dans le cœur de la femme. C'est dans la nature de la femme d'aider son mari. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé ainsi. Mais le mari, s'il refuse d'être aidé par sa femme, alors ce n'est plus possible. Il y a comme un blocage. Et il ne peut pas recevoir ce que Dieu veut donner. Et le mari, même malgré ses prières, à un moment donné, Dieu ne lui parle plus. Jusqu'à ce qu'il écoute sa femme. Avez-vous bien compris cela? C'est très important. Écoute ta femme maintenant un petit peu. Il est vrai qu'il y en a qui parlent un peu trop, mais enfin, ça fait rien. Elle parle peut-être beaucoup parce que l'homme n'écoute pas du tout. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi. Moi, c'est un peu comme ça avec moi. Je fais souvent parler ma femme parce que j'écoute pas bien. Parfois, elle est obligée de parler beaucoup parce que j'écoute peu. Finalement, c'est de ma faute. Mais si j'écoutais bien, elle n'aurait pas à discourir pendant des heures. Alléluia! Alors, on va encore plus loin dans cette obéissance. Regardez ce que j'ai noté maintenant. Pourquoi se soumettre à son mari? Et j'ai préparé pour vous 6 points importants. Voulez-vous que je vous les donne? Allez, allons-y. Pourquoi se soumettre à son mari? Premièrement, pour montrer notre obéissance à Dieu. Une femme le fait pas premièrement pour plaire à son mari. Il le fait premièrement parce que Dieu le dit. Et une femme sera heureuse seulement lorsqu'elle est obéissante. Il n'est pas question de chercher à comprendre là. Pourquoi vous devez vous soumettre? Parce que Dieu le dit. Ah oui, mais maintenant, c'est passé, c'est plus moderne, la philosophie actuelle dit autre chose. Philosophie ou pas philosophie, Dieu l'a dit. C'est le plus grand des philosophes, c'est le plus grand des psychologues, c'est le plus grand des psychiatres.
Alléluia.
Alléluia. Pourquoi est-ce que tu dois te soumettre à ta femme? Oh, pourquoi est-ce que la femme doit se soumettre à son mari? Ah ben, on l'a dit aussi, le mari aussi doit se soumettre. Mais pourquoi se soumettre à son mari? Pour montrer son obéissance. Non pas parce que le mari est parfait. Il y en a qui disent, oui, bon, attends, doucement, doucement. Quand il sera parfait, alors là, ça vaut la peine. Mais pas avant. Elles savent très bien que c'est une excuse, qu'il ne sera jamais parfait. C'est parce que dans le fond du cœur, elles ont décidé de ne pas se soumettre, n'est-ce pas vrai? Il faut voir les choses aussi comme elles sont. Premièrement, pourquoi tu dois te soumettre? Parce que Dieu le dit. N'écoute pas ce que les hommes disent. N'écoute pas ce que la philosophie actuelle dit. Dieu l'a dit. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est toujours pour ton bien, pour ton équilibre, pour ton épanouissement spirituel, moral et même physique. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi se soumettre à son mari? Pour montrer que nous respectons notre mari. Comment? Et il est dit, nous avons lu ici, et que la femme respecte son mari. Comment une femme peut-elle dire qu'elle respecte son mari si elle ne se soumet jamais à son mari? C'est comme pour dire, eh bien, tu vois, chérie, voilà, je me soumets à toi, hein? Bien sûr, dans les termes que la Bible donne, pour montrer que j'ai du respect pour toi. Voyez-vous, ici, soumission égale respect. Voyez, ce n'est pas la soumission servile. Ouais, je me soumets. Non, je me soumets parce que tu as du prix à mes yeux. Il est le roi de la maison. Il est le roi. Alors je me soumets à sa majesté. Non pas parce qu'il est roi, mais parce qu'il est formidable. Alléluia. Parce que j'ai du respect pour toi. Voilà pourquoi je me soumets. Et ça, c'est un point très important qui touchera beaucoup le cœur du mari. Si la femme fait cela dans cet esprit, je me soumets à toi parce que j'ai du respect pour toi. Pourquoi se soumettre à son mari? Troisièmement, pour donner un bon exemple aux enfants. Là aussi, il y a une vérité très importante. Chères épouses, écoutez-moi bien. Ce que vous êtes à l'égard de votre mari, c'est ce que vos enfants seront tôt ou tard à l'égard de leur conjoint. Ne l'oubliez pas. Si vous êtes une grincheuse, si vous critiquez constamment votre mari, vos enfants seront la même chose. Ils vont se marier et ils vont avoir la même attitude à l'égard de leur conjoint. Hein, vous allez être surpris. Hein, les papas, les mamans qui voient leurs enfants se marier. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens faire exactement ce que j'ai toujours fait. Et quand on le voit faire dans la vie de nos enfants, ça nous fait un mal terrible, n'est-ce pas? On se dit, mais c'est pas possible. Elle fait exactement comme j'ai fait. Pourquoi se soumettre à ton mari? Pour donner un bon exemple à tes enfants. Si tu veux que tes enfants aient une vie équilibrée, qu'ils soient eux-mêmes soumis, il faut que tu donnes cet exemple pour leur équilibre mental et spirituel aussi. Ceci est très important. Mais ce que tu es en tant qu'épouse, tu le communiques consciemment ou inconsciemment à tes enfants. Ils sauront ce que tu es. Ils sauront ce que tu fais. Peu importe tes discours. Mais voyons. Je leur ai bien fait la leçon. Je leur ai tout bien dit comment il fallait faire. Ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas seulement dire ce qu'il faut faire, il faut le faire devant les enfants. Et leur dire, chérie, non seulement fais ce que je te dis, mais fais aussi ce que je fais. Fais ce que je fais. Alors là, c'est là la véritable éducation. Fais comme je fais. Ça pénètre. Ça, c'est quelque chose qui sera une bénédiction pour vos enfants.
Voyons maintenant le quatrième point. Pourquoi une femme doit-elle se soumettre à son mari? Pour accomplir pleinement son rôle de femme. Je le répète, car ceci est très très important. Pour accomplir pleinement son rôle de femme. Un des plus grands obstacles qui empêche le mari et la femme de s'épanouir dans le foyer est l'ignorance des rôles et la responsabilité de chacun. Si une femme veut expérimenter les plus grandes bénédictions que Dieu en réserve pour elle, elle doit découvrir son rôle personnel et être convaincue que c'est ce qu'il y a de meilleur pour elle. Chères épouses, c'est en obéissant à ce que Dieu vous demande que vous trouverez le chemin de la paix et de la bénédiction pour vous-même et les vôtres. En vous soumettant, vous aurez l'occasion ainsi de mettre en pratique tous les talents que Dieu vous a donnés. Et vous n'aurez plus ce sentiment de frustration et d'inutilité dont souffrent tant de femmes aujourd'hui. Vous aurez enfin ce sentiment d'accomplir votre véritable mission. Il faut donc cet esprit de soumission.
Vous voulez donner le plein rendement de vous-même. Il faut cet esprit de soumission. C'est très important. Une femme qui ne veut pas cela, c'est une femme qui gâche sa vie, qui gâche son foyer. Oh, apparemment, elle fait ce qu'elle veut. Oh, apparemment, elle peut même avoir du succès. Mais regardez les fruits amers dans cette vie. Considérez quelques années plus tard les fruits amers d'une telle attitude, soi-disant de liberté, soi-disant, entre guillemets, de liberté. Et vous voyez les enfants rebelles. Je ne voulais pas dire ici, mais quand une femme refuse de se soumettre, il y a quatre conséquences, je l'ai dit en passant. Premièrement, il y a la délinquance juvénile. Deuxièmement, il y a l'esprit de rébellion. Troisièmement, il y a l'homosexualité. Et quatrièmement, il y a le divorce. Là où la femme ne respecte pas cela. Et ce sont les quatre fléaux qui sont au milieu de nous, n'est-ce pas vrai? Nous voyons des hommes qui ne prennent plus de responsabilité et nous voyons des femmes qui dominent. Et là où il y a cet esprit de domination des femmes, il y a ces quatre fléaux. Fléaux! Délinquance juvénile dans la famille. Rébellion, homosexualité et divorce. Bon, allons plus loin maintenant, ça c'est une petite parenthèse. Cinquièmement, pourquoi se soumettre à son mari? Pour permettre à votre mari de s'épanouir et de prendre ses propres responsabilités. C'est en se soumettant que la femme va aider à son mari à s'épanouir. Combien de femmes disent, oh, moi, il n'est pas capable de prendre des responsabilités. Il n'est pas capable. Ou même mon mari m'a dit, moi, toi, fais tout. Alors, on veut corriger un mal par un autre mal. Dans tel domaine, eh bien, c'est à toi d'agir. Écoute, non, c'est fini maintenant, c'est plus moi. Ça, c'est tes affaires. C'est toi qui dois prendre des décisions. Allez, je suis derrière toi. Allez, ne fais pas le petit garçon. Je suis derrière toi. Prends des décisions. Et la femme, en se soumettant, aide son mari à s'épanouir. Jusqu'à présent, il n'a pas pris de décision ou il n'a pas voulu en prendre. Parce que vous avez toujours pris vous-même des décisions. Aidez-le maintenant. Écoute, chérie, c'est toi. Tu dois prendre tes responsabilités. Et c'est ainsi que petit à petit, en prenant ses responsabilités, il s'épanouira et il deviendra l'homme que Dieu veut qu'il soit. Et s'il est l'homme que Dieu veut qu'il soit, il sera un époux béni pour toi. Alléluia. Car lorsqu'un homme est dans la main de Dieu, il est toujours dans une bénédiction pour les siens. N'est-ce pas vrai? Et pour terminer, sixièmement, pourquoi se soumettre à son mari? Pour être un exemple dans ce monde de rébellion. C'est un témoignage. Et nous en avons besoin, plus que jamais, n'est-ce pas vrai? C'est pas parce que le monde dit que maintenant les femmes n'ont plus besoin de se soumettre, que les chrétiens doivent suivre cette même philosophie. Et malheureusement, il y a des chrétiens comme cela. Moi, je les appelle des chrétiens au rabais. Qu'est-ce que c'est que ces chrétiens? Le moindre vent de philosophie, hey, ils y tombent dedans, ils sont emportés à tout vent de doctrine. Plus que jamais, les foyers chrétiens doivent tenir ferme. Et si nous ne tenons pas ferme, nous sommes le sel de la terre. Et dans quelque temps, les seules personnes normales seront les chrétiens. Tout le reste sera dévoyé, perverti. Impurs, rebelles, nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la saisonnera-t-on? Voilà pourquoi la femme doit se soumettre. C'est un témoignage dans le monde aussi. Amen. C'est un témoignage. Et si vous avez ce témoignage-là, Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Dieu bénira cette femme. Mais je le rappelle, toujours dans cet esprit de vraie soumission, n'est-ce pas? De vraie soumission. Dieu vous bénira et vous rendra en bénédiction. Mais savez-vous qu'un mari ne peut rien faire si sa femme ne se soumet pas? Un mari est complètement bloqué. C'est pourquoi la femme, en se soumettant, débloque son mari. Il le débloque. Il l'aide vraiment à devenir l'homme que Dieu veut qu'il soit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et je termine par cette troisième pensée maintenant, ce troisième fondement qui est celui-ci. Nous y reviendrons dans un autre message, mais je vais donner cette troisième pensée qui est en rapport avec les maris, au verset 25. Éphésiens 5, 25, il est dit « Marie, aimez vos femmes ». Donc le troisième fondement est un esprit d'amour. L'esprit du véritable amour. Et avez-vous remarqué, dans ce passage que nous venons de lire, à quatre reprises, il est dit que le mari doit aimer sa femme. Mais à aucun moment, il est dit que la femme doit aimer son mari. À un autre endroit dans Timothée, il est dit que les femmes doivent apprendre à aimer leur mari. Il l'est dit. Mais ici, dans ce passage-là, il n'est pas parlé de cela. C'est plutôt l'inverse. Il est dit quatre fois au mari d'aimer sa femme. Quatre fois. Pourquoi ? Écoutez-moi bien, ceci est très important. Pour que les maris sachent que le premier besoin d'une épouse est d'être aimé. Si un mari ne sait pas quel est le premier besoin de sa femme, il aura toujours une femme insatisfaite. Il dira toujours, mais je ne comprends pas cette femme. Je ne sais pas comment il faut faire pour s'en sortir avec elle. Pour la satisfaire, je ne sais pas. Combien de maris ont dit cela? Et je vous dis franchement, parfois j'ai pensé aussi. Puis je dis, mais comment je vais faire? Mais c'est pas possible, Seigneur aide-moi, je m'en sors plus! Oui, parce que le mari a des besoins différents de la femme, n'est-ce pas vrai? Et le mari doit savoir cela. Mais bien souvent, les maris ont la tête dure aussi. Ils ne veulent pas avoir cette sensibilité pour découvrir quel est le premier besoin de la femme. Et le premier besoin de la femme est d'être aimé. Un mari peut dire une fois par mois à sa femme, je t'aime, et être satisfait. Mais à la femme, il faut lui dire une fois par jour. C'était le moment de dire alléluia. Alléluia. Oui, à la femme, c'est un mystère. Comment? Je ne sais pas, mais je n'ai jamais rencontré une femme qui m'a dit le contraire. Toujours, au contraire. Et même, elle vous dira, mais oui, même une fois par jour, ce n'est pas suffisant. Même une fois par jour, ce n'est pas suffisant. Jamais, jamais, une femme ne reprendra son mari parce que son mari lui dit, je t'aime. Mais le mari, vous lui dites une fois, je t'aime. Ça va, il est satisfait. Voyez-vous, parce que c'est pas son besoin. Quel est le besoin du mari? Ah, je vous le dirai une autre fois. Je vous dirai demain quel est le besoin du mari. Mais quel est le besoin de la femme maintenant? C'est d'être aimée. Et le mari doit dire à sa femme qu'il l'aime. Combien de maris disent, mais oui, mais il sait que je l'aime, il sait bien. Voyons, si je l'ai marié, c'est parce que je l'aimais. Alors, ailleurs, hein, la belle maison que je lui ai donnée, les beaux enfants, la belle paye que j'amène à la maison, c'est quand même la preuve que je l'aime. Pour un mari, c'est ça, être aimé. Ou aimer, c'est plutôt ça. C'est ça, ça veut dire ça. Vous voyez, j'amène la paye à la maison, je lui donne quelques beaux meubles, une belle maison, enfin tout ça, un bon compte en banque. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Comment? Avec ça encore, t'es pas satisfait? Mais jamais je te comprendrai, toi. Comment? Avec tout ce que je fais, t'es pas encore satisfaite? Non. À une femme, vous pouvez donner beaucoup sans vous donner vous-même. Et la femme le sent. Et les femmes, elles sont contentes, là. Elles jubilent. Jubilez bien, c'est le moment d'en profiter, allez-y. Là. C'est le moment d'en profiter. Ah oui, c'est vrai, il me donne bien beaucoup de choses, celui-là. Mais c'est lui que je veux. C'est lui-même. Et le mari, lui, est satisfait en donnant quelque chose. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il lui faut, c'est quelqu'un, c'est vous-même. C'est vous-même, votre temps, votre amour, votre tendresse, votre patience, votre pardon. Elle a besoin de cela. Voilà ce que signifie aimer pour une femme. Ce sont ces signes de tendresse, d'affection, ces mots gentils, la fidélité dans les petites choses. Une femme, ça tape beaucoup aux petites choses. Le mari, c'est justement le contraire. Lui, il a des grandes visions. Alors, il voit tellement grand qu'il est aveuglé par les petites choses. Comment? Tu t'attardes à ça, toi? Mais voyons, on ne fait rien du tout. Oui, on a l'impression, le mari, on a l'impression qu'il vient d'une autre planète. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça qui te fait plaisir? Mais moi, j'avais quelque chose de grand pour toi. Non. Moi, une petite chose me suffit. Ah bon? Oh, mais c'est difficile. C'est difficile à être fidèle dans les petites choses. Et c'est cela, aimer pour une femme. Être aimé, c'est cela. C'est montrer son approbation aussi, de temps en temps, le plus souvent possible.
montrer son approbation et dire chérie, là t'es formidable. Là, vraiment t'as une qualité formidable. Que Dieu te bénisse, t'es une bonne cuisinière. T'es une bonne maman pour mes enfants. T'as du courage. Tu es patiente. La femme a besoin d'entendre cela. Est-ce que vous voulez le lui dire? Dites-le le plus souvent. Et vous verrez que votre femme sera ravie. Elle sera pleinement, pleinement satisfaite. Le troisième fondement, c'est l'amour. Le véritable amour. Un amour qui se sacrifie. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, c'est quelque chose qui vous coûte. Et quand vous manifestez une affection, une tendresse qui ne vous coûte pas, ça n'a pas de valeur aux yeux de votre femme. Il faut que ça vous coûte. Et quand ça vous coûte, ça n'a pas de valeur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que j'ai assez parlé. Nous allons nous courber dans la prière. Quelques instants. Alléluia. Nous allons nous laisser sonder par sa parole. Je crois que le Seigneur veut renouveler des couples ce soir. Il veut le faire. Il ne parle pas pour rien dire, n'est-ce pas vrai? Il ne parle pas pour rien dire. S'il vous parle, c'est pour vous aider à recommencer sur de nouvelles bases. Avoir des bons fondements. Mettez des fondements à votre foyer, s'il vous plaît. Sinon, lorsque l'orage viendra, lorsque la tempête viendra, alors la maison s'écroulera. Mettez des fondements. Ce soir, le Seigneur veut vous parler. Soyez assez humbles. Obéissez lorsque Dieu vous parle. Et le Seigneur fera des miracles. Il veut le faire maintenant. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, nous te louons pour ta présence au milieu de nous. Oh, tu es comme un époux au milieu de nous, qui veut bénir son épouse, qui veut la purifier, qui veut la relever, qui veut la guérir, qui veut la consoler, qui veut la délivrer aussi. Nous voici Seigneur, pour faire ta volonté, et non la nôtre. Alléluia. Merci Seigneur. Et tu nous veux obéissants à ta voix. Car sans notre obéissance, tu ne peux rien faire Seigneur. Nous voici maintenant. Trouve en nous un cœur docile et obéissant à ta voix. Laissons-nous sonder par le Seigneur, chers amis, maintenant. Le Seigneur est là pour nous parler. Alléluia. Si vous obéissez, Dieu agira. Amen.